Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant les liens invisibles qui tissent la trame de ces innombrables interactions, les oscillations qui le parcourent en permanence, les dialogues, les alliances, les combats, la perception de la présence rassurante ou menaçante des autres. Et parmi tous les sens qui permettent aux êtres vivants de percevoir les différentes dimensions du monde et de les réinventer en eux, il y en a un qui a mis très longtemps à être découvert. Peut-être parce que, comme le disait Protagoras au 5e siècle avant notre ère, nous pensons le plus souvent que nous sommes la mesure de toute chose. Et ce sens fait partie de ceux dont nous sommes dépourvus. Et il est très difficile d'imaginer qu'il y a des façons de percevoir le monde qui nous sont complètement étrangères.
Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
En 1794, à l'âge de 65 ans, le naturaliste, géologue, vulcanologue, mathématicien et prêtre italien Lazzaro Spallanzani décide de publier une partie de sa correspondance scientifique qui se conclut par la reconnaissance d'un échec. 30 ans plus tôt, en 1765, Lazzaro Spallanzani avait publié les résultats de ses expériences qui lui avaient permis de réfuter, un siècle avant Pasteur, la théorie de la génération spontanée des petits êtres vivants. Mais sa correspondance scientifique avec des collègues italiens et suisses qu'il publie en 1794 rapporte les recherches qu'ils ont réalisées pour tenter de résoudre un tout autre mystère. La publication est intitulée « Les lettres concernant une nouvelle modalité supposée de perception chez les chauves-souris ». La conclusion est que les chauves-souris possèdent un autre organe ou un autre sens dont nous sommes dépourvus, et dont par conséquent nous ne pourrons jamais avoir aucune idée. L'équivalent d'un mystérieux sixième sens de nature inconnue. Mais plusieurs années plus tard, les travaux du naturaliste suisse Louis Jurine convaincront Lazzaro Spallanzani qu'il ne s'agit pas d'un sixième sens inconnu. Ce sont leurs oreilles, écrira-t-il, plutôt que leurs yeux, qui leur permettent de se diriger en vol. Mais qu'entendent les chauves-souris? Que perçoivent leurs oreilles dans le silence, qui leur permet d'éviter les obstacles dans l'obscurité? Spallanzani et Jurine n'en ont aucune idée, et le mystère persistera durant près d'un siècle et demi. Au début du 19e siècle, le grand anatomiste et paléontologue Georges Cuvier proposera que les chauves-souris s'orientent dans l'obscurité grâce à leur sens du toucher, grâce à une extrême sensibilité de la peau de leurs ailes au mouvement de l'air à l'approche d'un obstacle. Et cette théorie connaîtra un succès considérable jusqu'au début du XXe siècle. En 1920, le physiologiste et médecin Hamilton Hartridge publie une hypothèse dans The Journal of Physiology. Le titre de sa communication est « L'évitement des objets par les chauves-souris durant leur vol ». Je propose, écrit-il, que les chauves-souris émettent durant leur vol un son de courte longueur d'onde, c'est-à-dire de haute fréquence, et que ce son est renvoyé par les objets qui sont au voisinage. Ce retour vers elle du son qu'elle a émis donne à la chauve-souris une information concernant son environnement. Il ajoute que les chauves-souris doivent avoir un sens spécialisé de l'audition qui leur permet d'entendre les sons de haute fréquence, c'est-à-dire les ultrasons, et qu'elles sont capables de percevoir leur environnement sous la forme d'images sonores. Près de 20 ans passeront, et en 1937, à l'université Harvard, aux États-Unis, un étudiant en thèse, Donald Griffin, qui explore le comportement des chauves-souris, propose à un professeur de physique, George Washington Pierce, d'explorer si les chauves-souris émettent des ultrasons en vol. George Washington Pierce vient d'inventer un micro qui permet d'enregistrer les ultrasons et de les restituer sous forme de sons audibles à l'oreille humaine. L'expérience indiquera que les chauves-souris émettent des ultrasons mais pas durant leur vol. Et Griffin et Pierce publient leurs résultats négatifs en 1938. Un an plus tard, Donald Griffin débute une collaboration avec un autre étudiant en thèse à Harvard, Robert Galambos, qui étudie l'audition. Ils refont l'expérience. Et, dira plus tard Galambos, à chaque fois que nous avons pointé le micro en direction d'une chauve-souris en train de voler, nous avons entendu une symphonie de cris en ultrasons. L'échec précédent était probablement dû à un problème technique. Griffin et Galambos publient leurs résultats en 1941 dans le Journal of Experimental Zoology. Et la même année, Robert Galambos publie dans Science son exploration des capacités auditives des chauves-souris, qui indique qu'elles sont capables d'entendre les ultrasons qu'elles émettent. Au total, en une série de 5 articles publiés entre 1941 et 1943, les deux étudiants en thèse apporteront la réponse au mystère du vol des chauves-souris dans l'obscurité. Les chauves-souris font émerger le monde qui les entoure en percevant l'écho qu'il leur renvoie des ultrasons qu'elles émettent. Elles voient par l'intermédiaire de leurs oreilles. Elles voient les paysages de sons qu'elles font apparaître dans ce qui pour nous est le silence. En 1944, Donald Griffin publie une note dans la revue Science. Parce qu'il n'y a pas de terme approprié pour décrire les processus de localisation des obstacles au moyen d'écho, écrit-il, je propose le mot écholocalisation. Le terme écholocalisation, dit Griffin, définit une capacité très générale, utilisée non seulement par les chauves-souris, mais aussi par des êtres humains et par certaines de nos machines, les sonars et les radars. Quand un navire plongé dans la brume est à proximité de la côte, dit Griffin, le capitaine souffle dans son sifflet et écoute si les falaises ou les rochers qu'il pense proches lui renvoient un écho. Griffin explique que ce terme peut aussi s'appliquer aux capacités des personnes aveugles qui localisent les objets par l'écho des sons de leurs pas ou de leurs cannes, et à la capacité de certains de nos instruments de détecter l'écho des ondes sonores ou des ondes radio que nous n'entendons pas. Les chauves-souris ne sont pas les seuls mammifères qui utilisent l'écholocalisation. C'est le cas aussi d'une partie des mammifères marins, les cétacés à dents, les odontocétis, les dauphins, les cachalots, les belugas, les orques, les marsouins. Et les seuls mammifères terrestres qui semblent capables d'une forme très rudimentaire d'écholocalisation sont quelques espèces de sauricidés, des petits rongeurs qu'on appelle communément des musaraignes. Une étude publiée il y a 5 ans dans Biology Letters indiquait qu'ils émettent des vocalisations en ultrasons et qu'à partir des échos qui leur étaient renvoyés, certaines musaraignes pouvaient apprécier à courte distance l'architecture globale d'un terrier, mais qu'elles n'étaient pas capables d'avoir une représentation précise de leur environnement. C'est probablement comparable, écrivaient les chercheurs, à la différence que nous percevons les yeux fermés quand nous écoutons l'écho de nos cris dans une forêt ou dans une cave qui résonne. Et ainsi, parmi tous les mammifères, c'est chez ceux qui parcourent les airs en volant dans l'obscurité de la nuit, les chauves-souris, et chez une partie de ceux qui parcourent les profondeurs troubles et sombres des océans et des mers, les cétacés à dents, que s'est développé ce sens étrange qui permet de faire émerger avec précision les échos des contours du monde alentour. Une immense majorité des espèces de chauves-souris qui vivent aujourd'hui est, semble-t-il, la totalité des ondocètes, des cétacés à dents d'aujourd'hui, utilisent l'écholocalisation. À la fin des années 1970, Donald Griffin commencera à s'intéresser au-delà des chauves-souris, à la conscience animale, aux activités mentales des animaux, à la façon dont ils perçoivent le monde. « Il y a un fait curieux que j'ai souligné dans tous mes livres, » dira Griffin. Nous, les scientifiques, avons tendance à partir de preuves très ténues à asséner des conclusions négatives. Aucun animal ne fait ceci, ou aucun animal n'est capable de faire cela, etc. Alors que nous n'en savons réellement rien. Je pense que nous devrions garder un esprit ouvert. Son dernier article scientifique, qui a été publié en 2004 dans Animal Cognition quelques mois après sa mort, s'intitulait « De nouvelles preuves en faveur d'une conscience animale. Dans la pénombre de la nuit, un petit mammifère bat des ailes en silence. La chauve-souris dessine les contours mouvants du monde à travers lequel elle vole, faisant continuellement apparaître en elle le paysage qui l'entoure, à partir de l'écho des cris qu'elle émet dans une fréquence sonore que nous n'entendons pas. Et à mesure qu'elle perçoit les ultrasons que lui renvoient les corps vivants et les reliefs du paysage sur lesquels ils rebondissent, à mesure qu'elle entend les innombrables échos de ses appels, à mesure qu'elle appelle dans la nuit, le monde lui répond et se présente à elle. Mais il n'y a pas une chauve-souris. Il y a 1116 espèces différentes de chauves-souris identifiées à ce jour dans le monde. L'immense majorité des chauves-souris partagent cette capacité d'émettre des ultrasons et d'utiliser les échos de ces ultrasons pour se diriger dans l'obscurité, détecter, localiser, identifier et atteindre leur cible, tout en évitant les obstacles. Il y a pour les chauves-souris au moins deux façons différentes de produire des ultrasons. Deux façons différentes qui sont apparues au cours de l'évolution chez ces petits mammifères ailés, dont les premiers ancêtres ont émergé il y a environ 65 millions d'années, à l'époque où disparaissaient les dinosaures. Il y a les chauves-souris qui émettent des ultrasons par les mouvements de leur larynx dans leur gorge. Et il y a les chauves-souris qui émettent des ultrasons par les claquements de leur langue. Les chauves-souris ont de très grandes capacités de modulation de leur vocalisation en fonction de leur environnement. Elles peuvent faire varier l'intensité et la durée de leurs cris. La forme étroite, focalisée ou au contraire large du faisceau d'ultrasons qu'elles émettent et la durée des intervalles de temps qui séparent deux cris. Et certaines chauves-souris peuvent moduler la fréquence de leurs ultrasons. La fréquence des ultrasons qu'elles émettent peut dépasser 100 000 Hz. L'intensité des cris peut atteindre 130 décibels et elles peuvent répéter leurs cris jusqu'à 200 fois par seconde. Les chauves-souris, je vous le disais, ont des capacités auditives très développées et très sélectives. Elles perçoivent très bien les fréquences sonores plus basses que les ultrasons, et notamment les bruits émis par les insectes. Elles font la différence entre les ultrasons qu'elles sont en train d'émettre et les échos des ultrasons que leur renvoie leur environnement. En fonction de la nature de ces échos, elles appréhendent la forme, la taille, la texture et les mouvements des êtres et des choses qui les entourent. Et en fonction du temps que met l'écho à leur parvenir, elles évaluent en permanence la distance qui les sépare des obstacles sur lesquels rebondissent les ultrasons qu'elles émettent.
Dans la nuit noire, j'attends l'aube pâle et reprends un rêve d'une cité idéale. C'est où je suis, ne me dis rien qui vaille. Dans la nuit noire, j'attends nos retrouvailles. Deux amants crus, deux amants en cavale. Qui, pour un peu, partagerait un cheval. Chapeau de paille. Dans la nuit noire, j'attends nos retrouvailles. Faut là-bas les vieilles montagnes. Tâche de regarder au travers. Dévaler rien que pour nous, qui se cachait à l'arrière. Dans la ville sainte, l'épouse ôte le voile. La veuve et le fou forment une chorale. Sur ses doigts, compte ses oies. Dans la nuit noire,
Lorsque les insectes que les chauves-souris poursuivent se rapprochent des feuillages, les échos des ultrasons renvoyés par les feuilles de certaines plantes sont une source de confusion pour les chauves-souris. Elles sont alors capables de se concentrer sur les échos provenant de leur proie, en filtrant sélectivement, en cessant d'écouter les échos renvoyés par les feuilles. Certaines chauves-souris modulent la fréquence et les composants harmoniques de leurs cris, réalisant un balayage de fréquences qui leur permet de distinguer clairement l'écho renvoyé par l'insecte de l'écho renvoyé par les feuilles. Et durant les périodes où elles cessent de moduler la fréquence de leurs cris de fréquence constante permettent aux chauves-souris de détecter la direction dans laquelle volent les insectes, s'approchent-ils ou au contraire s'éloignent-ils d'elles, et d'apprécier leur vitesse en prenant en compte l'effet Doppler. L'effet Doppler a été découvert au XIXe siècle par le physicien autrichien Christian Doppler. Quand une onde sonore de fréquence donnée se déplace vers nous, nous percevons sa fréquence comme plus haute, le son nous paraît plus aigu. Quand cette onde sonore s'éloigne de nous, nous percevons sa fréquence comme plus basse, le son nous paraît plus grave. Nous avons tous vécu cette impression. Une voiture de pompiers s'approche de nous et sa sirène nous semble de plus en plus aiguë. Puis la voiture nous dépasse, s'éloigne de nous, et la sirène nous semble de moins en moins aiguë, de plus en plus grave. Un insecte qui vole vers elle renverra à la chauve-souris un écho plus aigu, de fréquence plus élevée, qu'un insecte qui s'éloigne d'elle. Le plus souvent, une chauve-souris modifie ses cris à mesure qu'elle se rapproche de sa proie. Durant sa phase de recherche, la chauve-souris a une trajectoire de vol relativement constante, et émet ses cris en ultrasons à intervalles espacés, relativement constants. Lorsqu'elle détecte une cible, elle débute sa phase d'approche, se dirigeant vers elle avec des cris en ultrasons de plus en plus fréquents. Puis elle fond sur sa proie, en émettant une salve de cris en ultrasons de plus en plus brefs, à un rythme extrêmement rapide, qui a été appelé le vrombissement de la fin de la chasse. Mais depuis l'émergence des chauves-souris il y a environ 65 millions d'années, une série de mécanismes de fuite et de contre-attaque sont apparus et se sont propagés chez les papillons de nuit, les criquets et les scarabées. Une ancienne bataille fait rage au-dessus de nos têtes, dans le ciel nocturne, écrivent William Conner et Aaron Corcoran du département de biologie de l'université Wake Forest, en Caroline du Nord, dans une synthèse récente publiée dans Annual Review of Entomology. Les chauves-souris, prédateurs nocturnes accomplis, chassent leurs proies, les insectes, à l'aide d'un sonar à ultrasons. Et les insectes contre-attaquent par une myriade de comportements, incluant des acrobaties aériennes, des comportements furtifs et la production de sons anti-chauves-souris. L'histoire des relations entre les chauves-souris et les papillons de nuit est l'un des exemples les plus sophistiqués d'interaction entre prédateurs et proies. Dans l'un de ses derniers articles scientifiques en 2001, poursuivent Conner et Corcoran, Donald Griffin mentionnait l'histoire des relations entre chauves-souris et papillons de nuit comme un puits magique. Et ce puits magique continue à être pour les chercheurs une source d'intuition nouvelle. La synthèse de Conner et Corcoran, publiée en 2012 dans Annual Review of Entomology, était intitulée « Des stratégies sonores ». la bataille depuis 65 millions d'années entre les chauves-souris et les insectes. Chez de très nombreux insectes, les grillons, les criquets, des insectes de la famille de la menthe religieuse ont émergé et se sont propagés des récepteurs qui leur permettent de percevoir les ultrasons. C'est le cas notamment pour une moitié environ des espèces de papillons de nuit. Et dès qu'ils entendent les cris en ultrasons de leurs prédateurs, les papillons de nuit adoptent un comportement de fuite erratique, aléatoire, imprévisible, en zigzag, ou se mettent à effectuer des tonneaux dans l'air ou une chute en vrille qui rend plus difficile la tâche du chasseur. La plupart des papillons de nuit ne perçoivent les ultrasons que jusqu'à une fréquence de 60 000 Hz. Et des études indiquent que lorsque des chauves-souris Barbastella, qui volent à une vitesse de 20 km à l'heure, c'est-à-dire de 5 mètres par seconde, sont à une distance d'une vingtaine de mètres de leur proie, c'est-à-dire lorsqu'il ne leur reste plus que 4 secondes avant qu'elles ne l'atteignent, les chauves-souris Barbastella augmentent soudain la fréquence des ultrasons de leurs cris, de telle sorte que le papillon de nuit ne peut plus les percevoir, comme si le chasseur qui le poursuivait avait soudain disparu. Mais les insectes ne font pas que fuir. Depuis 50 ans, des chercheurs ont découvert que des papillons de nuit appartenant à de très nombreuses espèces ont aussi acquis la capacité de brouiller l'écholocalisation de leurs prédateurs. Ils possèdent de petits organes qui ont été appelés des timbales et qui peuvent émettre une succession très rapide de clics en ultrasons qui ont une fréquence voisine de celle des cris des chauves-souris qui les attaquent. Au moment où ils perçoivent les ultrasons émis par leurs prédateurs, ils déclenchent leur brouillage. Et des études réalisées par l'équipe de William Conner indiquent que cette tactique augmente significativement la probabilité que le papillon échappe à la chauve-souris en train de fondre sur lui. Deux études indiquent que certaines chauves-souris semblent s'être adaptées à cette stratégie en émettant des cris d'écholocalisation de très faible intensité, retardant le moment où ces cris peuvent être entendus par l'insecte et diminuant ainsi le temps de réaction dont il dispose pour contre-attaquer en brouillant son écho. Et Conner et Corcoran concluaient leur synthèse par ces mots. De même que les plus grandes profondeurs des océans et que les forêts tropicales les plus isolées, le ciel nocturne demeure largement inexploré. Et pour reprendre la belle analogie de Donald Griffin, le puits magique est toujours plein. Le contrôle dynamique de l'amplitude, de l'intensité, de la fréquence et de la durée de leurs cris et la sélectivité de leur écoute donnent aux chauves-souris qui volent dans l'obscurité de la nuit une extraordinaire capacité d'adaptation au caractère perpétuellement changeant de leur environnement. Mais les chauves-souris ne font pas qu'entendre les échos que leur envoie le monde. Elles possèdent aussi d'autres modalités de perception. Leurs ailes ne sont pas recouvertes de plumes comme celles des oiseaux, mais d'une membrane, d'une peau. Des études indiquent que certaines chauves-souris ont, au niveau de la peau de leurs ailes, une sensibilité au toucher aussi fine que celle de la pulpe de nos doigts. Et une étude publiée en 2011 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis suggère que certains poils de leurs ailes leur permettent de percevoir très finement les déplacements d'air et ainsi d'apprécier très précisément la vitesse et la direction de leur propre vol lorsqu'elles effectuent de brusques changements d'orientation, des accélérations et des décélérations. Les chauves-souris perçoivent aussi les odeurs. Elles ne sont pas aveugles, elles sont capables de voir, même si leur vue est relativement rudimentaire. Et les chauves-souris d'au moins une espèce seraient capables, comme certains rongeurs, de percevoir les ultraviolets. Mais revenons à leur vocalisation en ultrasons. Ces vocalisations ne sont pas seulement un moyen de faire surgir en elles le monde qui les entoure. Ces vocalisations sont aussi un moyen de communiquer avec leurs voisines qui volent auprès d'elles. Des études suggèrent que chez certaines chauves-souris, comme la sérotine brune, Eptesicus fuscus qui vit sur le continent américain et le grand murin, Myotis myotis qui vit en Europe, les appels des adultes possèdent une signature individuelle personnelles qui leur permettent d'apprendre à se reconnaître. Dans de nombreuses espèces de chauves-souris, les appels en ultrasons peuvent fonctionner comme des cris de ralliement des membres de la même population vers un territoire de chasse. Mais certains cris en ultrasons différents des appels d'écolocalisation peuvent au contraire permettre aux chasseurs d'éloigner des concurrents. Une étude publiée au printemps 2014 dans Current Biology indique que c'est le cas d'un cri modulé poussé par les mâles Eptesicus fuscus et qui a pour effet d'inciter ses voisins ou voisines à s'écarter de lui et à lui abandonner une proie dont ils étaient proches. Et il y a d'autres stratégies encore qu'utilisent certaines chauves-souris à l'égard de leurs compétiteurs lorsqu'elles chassent en groupe. L'une de ces stratégies, jusque-là inconnue, vient d'être révélée par une étude publiée dans Science la semaine dernière, le 7 novembre 2014.
Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you.
L'étude publiée dans Science la semaine dernière, le 7 novembre 2014, a été réalisée par Corcoran et William Conner. Elle concernait les chauves-souris Tadarida brasiliensis, encore appelées molosses du Brésil ou Tadarides du Brésil, qui vivent dans le sud des États-Unis en Amérique centrale et dans la plupart des régions de l'Amérique du Sud. Le nom de molosse qui leur a été donné ne traduit pas vraiment la réalité. La chauve-souris Tadarida brasiliensis n'a que 10 à 12 cm de long et ne pèse qu'un peu plus d'une dizaine de grammes. Elles vivent en colonies, de très grandes colonies, les plus grandes connues à ce jour pour des mammifères. Des colonies qui peuvent comporter plus d'un million de chauves-souris qui passent leur journée ensemble dans une même grotte. Elles sortent au coucher du soleil, formant un nuage sombre dans le ciel, et chassent la nuit. Elles se nourrissent d'insectes qu'elles poursuivent et capturent dans l'obscurité grâce à leur capacité d'écolocalisation. Les chauves-souris Tadarida brasiliensis, qui vivent dans d'immenses sociétés, possèdent un répertoire vocal riche d'au moins 15 appels sociaux différents. Et c'est la signification de l'un de ces appels de communication sociale en ultrason que Corcoran et Connor ont exploré. Un appel modulé, qu'ils ont nommé appel à modulation de fréquence sinusoïdale, en raison de la courbe sinusoïdale que réalisent les variations très rapides de la fréquence de cet appel. Les chercheurs ont étudié deux sites, en Arizona et au Mexique, où les chauves-souris Tadarida brasiliensis chassent les insectes durant la nuit. En réalisant des enregistrements vidéo permettant de voir dans l'obscurité et des enregistrements audio, ils ont reconstitué le vol en trois dimensions des chauves-souris et analysé les moments où cet appel à modulation de fréquence sinusoïdale était émis et les effets de ces appels. Quand une chauve-souris est dans la phase finale de sa poursuite d'un insecte, je vous le disais tout à l'heure, elle émet une salve de cris d'écolocalisation de plus en plus bref, à un rythme extrêmement rapide, le vrombissement de fin de chasse, qui lui permet de localiser précisément la proie qu'elle est sur le point d'atteindre. Corcoran et Connell ont découvert que les appels à modulation de fréquence sinusoïdale n'étaient émis par une chauve-souris que lorsqu'elle était à proximité d'une autre qui était en train de commencer à pousser le vrombissement de fin de chasse, en moyenne 1 à 2 dixièmes de seconde après que sa voisine ait poussé son vrombissement. L'appel à modulation de fréquence sinusoïdale comporte une syllabe qui peut être répétée jusqu'à 5 fois avec de très brefs intervalles de silence. Et cet appel dure aussi longtemps que le vrombissement de fin de chasse. L'effet de ces appels à modulation de fréquence sinusoïdale est spectaculaire. La probabilité qu'une chauve-souris attrape la proie sur laquelle elle est en train de fondre diminue de 77 à 86% si l'une de ses voisines émet un appel à modulation de fréquence sinusoïdale au moment où elle a poussé son vrombissement de fin de chasse. Elle ne s'écarte pas de sa voisine. Elle ne semble pas effrayée. Simplement, elle rate sa cible. La fréquence de l'appel à modulation de fréquence sinusoïdale a pour effet de brouiller l'écolocalisation de la chasseuse et de l'empêcher d'apprécier correctement la distance qui la sépare de sa proie. Mais est-ce bien l'appel à modulation de fréquence sinusoïdale qui provoque cet échec ? Ou bien un autre appel ou un autre comportement de ses concurrentes. Pour le vérifier, les chercheurs ont répété l'expérience en diffusant des enregistrements d'un appel à modulation de fréquence sinusoïdale. Quand l'appel à modulation de fréquence sinusoïdale était diffusé un peu avant le vrombissement de fin de chasse d'une chauve-souris, il n'avait aucun effet sur la réussite de la chasse. En revanche, quand l'enregistrement était diffusé juste après le début du vrombissement de fin de chasse, il entraînait un échec de la chasse dans 73% des cas. La diffusion dans les mêmes conditions d'enregistrement d'appels de chauves-souris de fréquence constante non modulée n'avait aucun effet, de même que la diffusion de différents bruits. C'est donc bien l'appel à modulation de fréquence sinusoïdale d'une voisine qui brouille la capacité de la chauve-souris à repérer sa proie dans la phase finale de sa chasse. Il n'y a donc pas que les insectes qui ont acquis la capacité de brouiller le sonar de leurs prédateurs. Les chauves-souris de la même espèce, quand elles sont en concurrence, ont aussi cette capacité. Le titre de l'étude était « Des chauves-souris brouillent des chauves-souris, une compétition pour la nourriture par interférence avec le sonar ». S'agit-il d'une forme de jeu gratuit un peu pervers ? D'une forme de ce que Freud appelait une Schadenfreude, le plaisir de voir l'autre échouer? C'est très improbable, et ce n'est en tout cas pas l'hypothèse qu'émettent Corcoran et Conner. Les chercheurs proposent que les concurrentes qui émettent l'appel à modulation de fréquence sinusoïdale doivent profiter de cet échec en bout de course pour s'approprier la proie. William Conner a dit à une journaliste scientifique de Science qu'une chauve-souris dont la victoire est empêchée par une voisine qui émet un appel à modulation de fréquence sinusoïdale répond souvent en émettant à son tour un appel à modulation de fréquence sinusoïdale empêchant sa voisine de s'emparer de l'insecte. Elles vrombissent chacune à son tour, dit-il, se répondant, se battant pour s'emparer de la proie jusqu'à ce que finalement l'une des deux abandonne. Mais aucune donnée concernant cette compétition n'a été présentée dans l'étude. Et le fait de savoir si l'objectif de celle qui brouille l'écolocalisation de l'autre est de la pousser à l'échec et de réussir à s'emparer de la proie qu'elle poursuit reste encore à vérifier expérimentalement. Je vous avais dit dans une précédente émission qu'il y a dans les forêts des régions tropicales et subtropicales d'autres espèces de chauves-souris qui ne se nourrissent pas d'insectes. Il y a les vampires qui vivent en Amérique du Sud. Pas ceux de nos contes et légendes et du roman de Bram Stoker, le comte Dracula ou son avatar Nosferatu, dans le film muet de Murnau, mais des chauves-souris des régions tropicales qui se nourrissent la nuit en prélevant, comme les moustiques, le sang des animaux. Certains vampires ont non seulement un très bon sens de l'écolocalisation, mais aussi une excellente vue, une bonne audition et un excellent sens de l'odorat et du toucher. Ils ont aussi, comme certains serpents, une capacité à détecter les ondes infrarouges, des ondes lumineuses d'une fréquence trop basse pour que nous puissions les voir et qui sont émises par la chaleur. Leurs détecteurs à ondes infrarouges sont situés dans leur museau. Et ce sens particulier leur permet de localiser très exactement, grâce au léger excès de chaleur qu'ils dégagent, les vaisseaux sanguins qui affleurent sous la peau. Et ils prélèvent du sang avec la précision d'une infirmière qui fait une prise de sang. Mais il y a aussi, dans les forêts des régions tropicales et subtropicales, d'autres espèces de chauves-souris qui ne se nourrissent ni d'insectes, ni du sang des animaux. Ces chauves-souris ne sont pas des chasseurs, mais des cueilleurs, des végétariens. Comme les abeilles et comme certains oiseaux, elles se nourrissent du nectar des fleurs. Au cours de la longue évolution de leurs interactions étroites avec les animaux qui les pollinisent et favorisent ainsi leur reproduction sexuée, les fleurs ont développé de splendides couleurs et de somptueux parfums qui permettent aux abeilles, à d'autres insectes pollinisateurs et à certains oiseaux comme les colibris de les repérer et de les reconnaître. Ce sont les couleurs des fleurs qui permettent de les distinguer de loin. Leur parfum n'est perceptible qu'à plus courte distance. Mais pour les chauves-souris qui dorment durant le jour dans des grottes ou des arbres, suspendues la tête en bas, enveloppées dans leurs ailes, en se retenant par leurs pattes, et qui visitent les fleurs durant la nuit, les couleurs des fleurs ne sont d'aucune utilité. Il y a plusieurs centaines d'espèces différentes de fleurs sous les tropiques, dont la pollinisation et donc la reproduction dépendent des chauves-souris. Et chez certaines de ces fleurs, ont émergé des formes qui les rendent particulièrement identifiables dans ce monde étrange que dessinent les échos des ultrasons des chauves-souris. Il y a 15 ans, 1999, une étude publiée dans Nature a suggéré pour la première fois l'existence de ce phénomène chez une plante à fleurs des forêts tropicales d'Amérique du Sud, Mucuna holtoni. Mucuna holtoni est une vigne qui s'accroche aux branches des arbres et se suspend sous la canopée à plusieurs mètres du sol. Ses principaux pollinisateurs sont les chauves-souris Glossophaga commissarisi. La fleur a une particularité. Quand elle est ouverte et prête à libérer son pollen, parmi ses 5 pétales, il y en a un qui se dresse verticalement. Et la présence de ce pétale dressé verticalement permet aux chauves-souris d'entendre la fleur de Mucuna holtoni. Ce pétale a la forme d'un petit miroir convexe, ouvert sur l'extérieur, un petit miroir sonore qui renvoie les ultrasons dans la direction même d'où ils ont été émis. Et les chauves-souris entendent très bien ces échos, reconnaissent sa signature sonore particulière et localisent très facilement sa source. Les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont montré que ce n'était pas l'odeur de la fleur qui guidait ces chauves-souris, mais bien les échos des ultrasons qu'elle leur renvoyait. En l'absence de cet indice, en l'absence de ce pétale vertical, les chauves-souris visitent 4 fois moins souvent les fleurs de la vigne. 12 ans passeront, et en 2011, une étude publiée dans Science révélera l'existence d'une autre variation sur ce thème.
France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
Les fleurs de la vigne Margravia evenia, qui poussent dans les forêts de Cuba, sont visitées par des chauves-souris Pallas à longue langue, Glossophaga soricina, qui repèrent ces fleurs par écholocalisation, se nourrissent de leur nectar et les pollinisent. Ce n'est pas la fleur elle-même qui renvoie à ces chauves-souris les ultrasons qu'elles émettent. C'est l'une des feuilles de la plante qui est située au-dessus de la fleur et qui a une forme très particulière, la forme d'une coupe ou d'un bol évasé. Contrairement au pétale vertical de la fleur de la vigne Mucuna holtonii, la feuille en forme de bol, placée au-dessus de la fleur de la vigne Marcgravia Evenia, renvoie l'écho des ultrasons dans toutes les directions, de manière égale, quelle que soit la position de la source d'émission de ces ultrasons. Et ainsi, une chauve-souris Glossophaga soricina, en train de voler rapidement à travers la forêt, percevra l'écho de son cri, même après avoir quitté le lieu d'où elle a émis son cri. L'étude publiée dans Science en 2011 indique que la présence de la feuille en forme de bol au-dessus de la fleur réduit de moitié le temps que les chauves-souris mettent à repérer, à visiter et à polliniser ces fleurs. Pour les chauves-souris, le monde qu'elles parcourent n'est jamais silencieux. Même quand tout se tait autour d'elles, en l'absence de tout bruit, l'écho des ultrasons qu'elles émettent leur permet d'entendre les contours des animaux et des plantes et les reliefs des paysages. Et leurs interactions ancestrales avec les êtres dont elles se nourrissent ont été à l'origine de phénomènes de coévolution très différents. Chez certains insectes, l'émergence et la propagation d'une capacité à entendre les ultrasons des chauves-souris qui les poursuivent et à émettre eux-mêmes des ultrasons leur a permis d'une part de tenter de fuir et d'échapper à leurs prédateurs en adoptant une technique de vol imprévisible en zigzag ou une chute en vrille, et d'autre part de brouiller le sonar de leurs prédateurs. Chez certaines plantes à fleurs, au contraire, ont émergé, se sont propagées des transformations qui leur permettent de se rendre encore plus repérables, encore plus audibles par les chauves-souris, dont les visites leur permettent de se reproduire. Dans un cas, il y a eu une coévolution des moyens de défense et de contre-attaque, une course aux armements, et dans l'autre, une coévolution des moyens d'attraction et de séduction à l'égard d'une autre espèce. Mais les chauves-souris ne communiquent pas seulement par ultrasons. Certaines d'entre elles chantent aussi, comme les oiseaux, dans des fréquences sonores qui nous sont audibles. Jack Bradbury a été un élève de Donald Griffin. Il est professeur émérite d'ornithologie à l'université Cornell, à Ithaca, dans l'État de New York. Et il participe avec des collègues à l'enregistrement des paysages de sons de très nombreux animaux. Il y a 30 ans, avec une collègue, il a réalisé dans les Caraïbes le premier enregistrement d'un chant de chauves-souris, les chauves-souris Sacopteryx bilineata. À l'aube, raconte Bradbury à l'auteur d'un article intitulé « Quand les chauves-souris chantent », qui a été publié à la fin du mois de juin 2014 dans Science, à l'aube, elles venaient se suspendre par les pattes à leur perchoir, la tête en bas, et se mettaient à chanter comme des oiseaux, et dans des fréquences suffisamment basses pour que je puisse les entendre. Ce n'est qu'il y a moins d'une dizaine d'années que le chant des chauves-souris a commencé à faire l'objet de recherches. Et aujourd'hui, la capacité à élaborer des chants qui semblent aussi complexes que ceux des oiseaux a été identifié dans au moins une vingtaine des 1116 espèces connues de chauves-souris. La plupart de ces chants, indique l'article publié dans Science, sont des chants de séduction pendant la saison des amours et des chants de défense du territoire. Le plus souvent, comme chez les oiseaux et les baleines, ce sont les messieurs chauves-souris qui chantent les chants les plus complexes. Et dans la plupart des cas, les messieurs chantent pendant leur repos, suspendus par les pieds dans une cavité, à l'intérieur d'un arbre ou dans une grotte. Mais dans certaines espèces, les chauves-souris chantent aussi en vol. Comme chez les oiseaux et les baleines, ces chants complexes ne sont pas innés. Les petits des chauves-souris les apprennent en écoutant attentivement puis en imitant les chants de leurs parents et des adultes qui les entourent, comme nous apprenons à parler en écoutant et en imitant les adultes qui nous entourent. Comme nous et comme les oisillons, les petits de chauves-souris commencent par un babil. Et bien qu'une fois devenus adultes, ce sont surtout les messieurs chauves-souris qui entonneront les chants les plus complexes, les chants ont aussi été appris durant leur enfance par les dames chauves-souris. Une fois adultes, elles reconnaîtront dans les chants des messieurs, lors de la saison des amours, les syllabes, les phrases, les trilles et les gazouillis de la musique qu'elles avaient elles-mêmes appris à chanter. La structure des chants est différente en fonction des espèces. Les chauves-souris Tadarida brasiliensis, qui vivent en Amérique du Sud et du Nord, ont un chant rythmique, composée de multiples syllabes, de tris, de gazouillis et de bourdonnements. Les chauves-souris Sacopteryx bilinéata, qui vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ont des chants composés de différentes phrases, contenant de multiples syllabes. Les chants de Mystachina tuberculata, en Nouvelle-Zélande, comportent des trilles, des glissando et des composants en ultrasons. Les chants de Cardiodermacor, en Afrique de l'Est, sont faits de trilles et de pépiments de basse fréquence qui s'entendent de loin. Une étude publiée en 2013 dans Animal Behavior rapporte que le chant complexe des chauves-souris Tadarida brasiliensis semble, comme le chant de certains oiseaux, posséder des règles de syntaxe. Et une étude très surprenante, publiée en 2008 dans Acta Chiropterologica, suggérait que les chants des chauves-souris pourraient aussi avoir une signification sémantique, être non seulement une musique, mais aussi un langage. Les chercheurs avaient réalisé en Bohême près de 3000 enregistrements des chants de séduction des chauves-souris mâles Pipistrellus natusii qui vivent en Europe et qui chantent à la fois dans leur lieu de repos et durant leur vol. L'analyse de ces chants a conduit les chercheurs à proposer qu'ils contiendraient et transmettraient au moins 5 informations distinctes qu'ils ont désignées par A, B, C, D et E. Le chant débuterait par une phrase musicale, A, qui indiquerait l'espèce à laquelle appartient le chanteur, suivi de 2 phrases musicales B et C qui identifieraient le chanteur et constitueraient l'équivalent d'une signature. Puis une phrase D donnerait une information sur la population particulière à laquelle appartient le chanteur. Enfin, une phrase E indiquerait aux chauves-souris qui entendraient ce chant l'endroit où elles peuvent se poser pour les rejoindre. Traduit en mots humains, écrivaient les chercheurs, le message A, B, C, D, E pourrait approximativement se traduire ainsi. A, écoutez-moi. B et C, je suis un Pipistrellus natusii. Plus précisément, je suis le mâle 17B. D, nous partageons une identité sociale commune et un mode de communication commun. E, posez-vous ici. Mais pour l'instant, ces résultats et cette interprétation particulièrement étonnante n'ont, à ma connaissance, fait l'objet d'aucune confirmation. Quelle est la richesse du langage des chauves-souris? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons que tenter d'imaginer la richesse et la diversité des innombrables modalités d'expression, de perception et de représentation qui ont évolué chez d'innombrables êtres vivants et qui leur permettent d'inventer la merveilleuse splendeur et la merveilleuse étrangeté de ce que nous appelons la réalité, leur réalité. Cette émission a été réalisée par Juliette Gou avec à la prise de son Michel Bézikian et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.